Dans sa série L'écran radiophonique, Radio Canu vous présente un scénario original de Julien Jean-Pierre, Passeport pour la France. Mise en scène, production, Julien Jean-Pierre, enregistrement, CVRP. Rio de Janeiro, nous sommes en mai sur la plage, un lundi matin 10h. Pendant que je me bronze, il y a des milliers de gens qui sont à leur travail. De toute façon, la plage est le seul endroit supportable de ce pays. Pfff, quel pays! C'est sale, il y fait chaud, on s'ennuie à mourir. Qu'est-ce que j'étais venu faire ici? Vivement que je retrouve de l'argent pour pouvoir rentrer en France. Si je ne m'étais pas fait mettre à la porte de Roule-Poulenc, je n'aurais pas demandé ma mutation. Je ne peux pas travailler dans un climat pareil. Mon frère avait raison de dire que les pays exotiques, c'était beau qu'en photographie. Mais après mon divorce, j'étais complètement désorienté. Mon mariage aussi a été une vraie catastrophe. Là, c'était mes parents que j'aurais dû écouter. Se marier à 18 ans, sans connaître la vie, quelle stupidité! Mes parents me payaient mes études que je faisais à Paris. Je suivais des cours de chimie. Je voulais être ingénieur pour pouvoir, comme mon père, entrer en Roule-Poulenc. Je logeais à Paris, chez un copain, dans un petit studio boulevard des écoles. Oh, tiens, je m'y vois. Ah, oh, quand je pense à ça, je m'y revois. C'était vraiment le bon temps. Après les cours, nous étions libres. Nous allions à Saint-Germain, Pigalle. Malheureusement, cette liberté n'a pas duré. J'ai rencontré Maryse. Elle était étudiante et orpheline. Elle était la première que j'ai aimée. Et elle est devenue enceinte au bout de quelques mois. Nous avions tous les deux 18 ans. Avec l'autorisation de mes parents, nous sommes mariés à la va-vite. Mes études, je les ai terminées comme j'ai pu. Puis, je me suis fait embaucher par mon père à Roule-Poulenc. 2 ans après notre mariage, et malgré l'enfant, nous avons divorcé. Ensuite, j'ai demandé ma mutation pour Rio. Malheureusement, le climat, les morts, la solitude, la boisson ont fait que j'ai perdu mon emploi. J'aimerais en retrouver du travail assez rapidement. Je veux absolument rentrer en France. Jean-Marie Goldberg a fini de parler. Il boit sa sangria à la terrasse d'un petit café qui se trouve sur la plage. Il est assis en maillot de bain marine, les jambes écartées. En face de lui se trouve un gros homme en costume cravate bleu roi. Il a chaud et s'éponge de front. Il regarde Jean-Marie et lui demande son âge. 30 ans. Il en paraît beaucoup moins.
Non, je n'ai rien à vous proposer pour le moment. Mais venez demain soir chez moi. Ma femme vous invite.
Le gros homme se lève, tend la main et part. Jean-Marie termine son verre sans se presser. Enfin, j'ai tout de même eu une invitation à dîner. Il voit à une table voisine une altercation entre le serviteur et une femme. Juste au moment de payer, elle s'est aperçue qu'elle avait oublié son argent. Le garçon ne veut rien savoir. Jean-Marie se lève, va vers eux. « Excusez-moi de vous interrompre, mais si j'ai bien compris, cette dame a oublié son argent et ne peut payer sa consommation. Madame doit combien ?» Il paye le garçon. Comme il ne sait pas parler l'espagnol, il a parlé en français. La femme le remercie en français. « Vous parlez française ?»«
Oui, j'ai vécu toute mon enfance en France, à Avignon.
Asseyez-vous, je vous en prie, monsieur. » Il s'assoit en face d'elle. Elle a dans les 25 ans, brune, de peau et de cheveux, grande, mince, et malgré le manque de finesse de ses traits, elle paraît belle. Elle ne manque pas d'attrait. Elle porte une robe d'été en coton blanc. Elle lui dit que ce n'est pas son habitude de se faire payer à boire par des inconnus. Moi non plus, ce n'est pas mon habitude d'accoster une jolie femme. Il est envoûté par son regard. Elle regarde sa montre. Il faut que je parte. Je dois partir. Ils se lèvent tous deux. Il lui dit : J'espère que nous nous reverrons. Elle lui sourit. Qui sait ? Et part. Demain soir, il se rend à l'invitation à dîner. Il n'est pas seul à être invité.
Pensez-vous, papa ? 176.
Tu n'es pas formidable ?
176 de qui ?
Durto.
Ah.
Merci, mon cœur.
Parmi les personnes, il reconnaît la femme du bar. Il la salue et lui dit que le monde est petit. Dites-moi votre nom. Je m'appelle Maria Hernandez. Je suis marié et vis à Rio.
T'as pas l'air en forme.
Il s'installe à table. Vous parlez admirablement bien le français. Mon mari aussi. Maria Donia s'aperçoit de l'effet qu'elle produit à Jean-Marie. Sur la plage, elle n'avait pas eu le temps de le regarder. Elle se dit, ça lui va bien son smoking blanc. Il ressemble à mon mari. Le repas se poursuit gentiment. C'est le directeur de l'usine de Saint-Gobain qui les a invités avec quelques autres. Les 23 heures, chacun se retire. Jean-Marie propose à Maria Donia de la raccompagner.
Qu'est-ce qu'il y a ? T'as pas l'air en forme.
J'étais venu avec des amis, mais j'accepte votre offre. Merci. Il la fait rentrer dans sa Mercedes blanche. Elle le dirige à la limite de la ville, dans une petite rue où se trouvent des villas au style plus ou moins espagnol. C'est ici que j'habite. Mon mari a une entreprise de transport. Il voyage souvent. Il la fait descendre de voiture. Au revoir, madame. J'espère que nous nous verrons. Pourquoi pas? Je vais tous les jours sur cette plage. Merci. Bonne nuit. Il remonte dans la voiture. Avant d'entrer chez elle, elle le regarde partir. Lui va rejoindre son hôtel, un hôtel plus ou moins minable. Quand on n'a pas d'argent, il ne faut pas être difficile. Le smoking, il le rangera confortablement sur un cintre. Demain, il le rendra. Le lendemain, ils se retrouvent sur la plage. Ils passent la journée ensemble à se baigner, à s'allonger sur le sable. Le soir, ils l'emmènent dans un café-restaurant. Tous les deux épuisés par cette journée de plage. Et ils boivent un peu trop d'alcool. Elle est assise en face de lui, languissante, les jambes écartées. Un pauvre air danse.
Alors c'est pas le moment de lui demander à boire.
Et toi, tu m'offres pas un verre?
Qu'est-ce que c'est, patron?
Attends, offre-moi une petite goutte.
Juste ce qui reste dans le fond de votre verre.
On n'a pas à en demander pour boire, tu n'as qu'à la gagner.
Je veux bien, je demande pas mieux.
Il y a longtemps qu'il n'était pas vous danser.
Oh non, pas aujourd'hui, il est trop chaud.
Alors tant pis pour toi, tu n'auras rien.
Quoi, c'est sous pour danser.
C'est bien, non, pardon. Lupita, ne rompe pas la mienne, esta no eres nada. Déjala.
Oui, je ne me sens pas en forme. Promenade au cimetière m'a coupé les jambes.
Bien, bois une gorgée. Je vais te le faire repousser.
Oui, non, la droite va mieux. Oui, oui, oui. Regarde la gauche.
Tiens, bois.
Ah non, oui.
Allez, Georges, dépêche-toi. Qu'est-ce que tu vas nous danser?
Un guapango, claro.
Alto la musica. En lugar de la niña, Jorgito nos va a bailar un guapango. Y si lo hace bien, se ganará una botella de tequila.
Thank you. bastante fría. ¿Se la llevo a la señora?
No, no, dámela. Yo se la llevaré.
No puedo. Síguele. Síguele, Jorgito, que la vas a perder. ¡Anda, viejo! ¡Sigue! ¡Baila! ¡Mucho, Jorge! ¡Ese es mi Jorge! ¡Mucho!
Sortent du bar, l'air frais du soir leur fait du bien. Et ça ne les désenivre pas. Pour la mener dans la voiture, il la guide avec son bras sur son épaule. Il sent, sous son chemisier, les bretelles de son soutien-gorge. Voiture, ils ne se parlent pas. Arrivé chez elle, il arrête la voiture. Il reste sans bouger. Il aimerait passer la nuit avec elle, mais il n'ose pas faire le premier pas. Elle ouvre la portière et lui dit au revoir. Et merci pour la journée. Il rentre chez lui, dans son hôtel. Il est 22h. C'est un hôtel minable, sale. Les WC sont dans la cour, la chambre est toute petite, elle n'a pas de salle de bain, mais juste un lavabo. Il ouvre la porte de sa chambre. Entre et éclaire l'électricité. Il voit sur son lit un vieux lit en métal, un garçon d'environ 14 ans, brésilien, vêtu en vêtements blancs sales. « Qu'est-ce que tu fais là, Antonio ?» Le garçon se lève. Sort du lit. Rien, señor. Mais je ne savais pas où aller. Ma mère est avec Pedro. Elle m'a mis à la porte. Jean-Marie soupire. Bon, ça va. Tu peux coucher ici. L'enfant sourit. Jean-Marie se déshabille, range soigneusement son costume sur un cintre. Il faut qu'il fasse bien attention, car c'est son dernier. Puis, il met un pyjama et se couche à côté de l'enfant. Lendemain matin, Antonio se réveille avant Jean-Marie. Il sort du lit et met sur un magnétophone une cassette. soir, ils se sont attardés sur la plage. Elle avait été durant toute la journée encore plus désirable. La plage était déserte. Il y avait déjà un bon moment qu'ils se sont regardés le coucher de soleil. Ils marchent la main dans la main, le corps alangui par une journée de soleil. Lorsqu'il l'a ramenée en bas de chez elle, avant qu'elle ne parte, il lui donne un baiser sur la bouche. Elle ne s'est pas débattue. En rentrant chez lui, il se demande pourquoi elle s'est laissée embrasser. Peut-être est-elle attirée par lui. Ce soir, Antonio n'est pas chez lui, mais il a laissé des œufs pour le repas du soir. Il a revu Maria Donna le lendemain. En guise de bonjour, elle lui a donné un baiser. Tout en prenant un bain de soleil, ils ont un peu mieux fait connaissance. « Mon mari est très violent. Il me bat souvent. Je ne suis pas très heureuse. J'habitais en France lorsque j'ai connu. J'avais 18 ans et lui 25. Je l'aimais comme une folle. Mais lui, parfois, je doute qu'il m'ait vraiment aimée. Nous avons vécu en France au début de notre mariage. » Et puis il a dû rentrer. Son oncle est mort et il a dû prendre sa succession. Moi, retourner à Rio, dans la ville de mes ancêtres que je ne connaissais pas, cela ne me disait rien. Mais enfin, je l'ai suivi. Je ne sais si c'est le climat, mais son caractère a changé. Il est devenu coléreux, violent. Il boit aussi beaucoup. J'aimerais demander le divorce, mais lui ne veut pas. À cause de sa famille et de la religion. Il y a des moments où j'aimerais m'enfuir, tout quitter. Malheureusement, je n'ai pas d'argent, ni de famille. Il lui a parlé de son mariage précoce et de ses ennuis d'argent. Il ne lui a pas dit qu'il l'aimait, mais ses yeux lui ont fait comprendre. Et ils ont décidé de passer la journée en dehors de Rio. Le soir, lorsqu'il la raccompagne, « Venez si vous désirez prendre un verre. » Ils sortent de voiture, elle a ouvert la porte de sa villa. Les domestiques sont partis, tout est calme, elle le mène au salon. Le fait asseoir et lui sert un bourbon. Il regarde autour de lui et voit que la pièce est presque vide, mais que la tapisserie a laissé des traces d'ombre qui ont été faites par des meubles et des tableaux. Elle sort de la pièce, mais avant, elle met en marche une cassette. Jean-Marie Samoli, l'alcool, la chaleur, l'ambiance. Puis, elle revient. Elle a changé de robe et de coiffure. Elle s'assoit à côté de lui. J'ai été voir à la cuisine, mais il n'y a pas grand-chose à manger. Si vous n'êtes pas trop difficile. Après le repas, malgré qu'il ait envie d'elle, il sent en lui une gêne, cette maison presque vide, ce silence. Il demande à prendre congé. Il s'est levé, elle se lève, elle prend un air langoureux. Ce serait bête que deux personnes qui aimeraient faire l'amour ensemble ne le fassent pas. Elle défait la fermeture à glissière de sa robe qui tombe à terre. Elle est complètement nue. Elle le regarde droit dans les yeux avec un air de défi. Lui baisse les yeux, regarde ses seins fermes et gonflés de plaisir. Ses hanches, cette toison noire. Elle n'a pas cessé de le regarder. Il s'approche. La prend dans ses bras, l'embrasse sur les lèvres. Elle se dégage, le conduit par la main dans sa chambre. Elle s'allonge, il se déshabille. Va la rejoindre. Toute la nuit, leurs corps ne font qu'un. Matin, elle le réveille. Il faut en aller avant l'arrivée des domestiques. Il la quitte et se donne rendez-vous dans une semaine, car elle ne sera pas libre avant. Son mari sera là. Attendant de la revoir, Jean-Marie cherche du travail. Il traîne dans les rues, au port.
Avec tout France, de Buenos Aires au Paris-Saint.
Una limarnita, señor, una caridad.
De Buenos Aires.
A ver si te blanqueas un poco, que demasiado te...
Enfin, elle lui téléphone. Je ne peux pas sortir. Viens chez moi, ce soir. Il frappe.
Elle ouvre la porte. Elle porte des lunettes noires et une robe longue noire. Elle le fait rentrer. Pourquoi ces lunettes ? Elle les retire, elle a un œil au bord noir. Qui t'a fait ça ? Elle hausse les épaules. Pourquoi ? Pour rien, il avait bu. Le salaud, il te cogne souvent ? Elle ne répond pas. Tu ne peux pas continuer à vivre avec lui. Ils vont au salon. J'aimerais le quitter, mais comment faire ? Je n'ai pas un sou, rien, ni toi non plus. À moins d'un miracle. Il y a 6 mois, il a pris une assurance sur la vie. Et s'il mourait, je recevrais une belle somme. Malheureusement, il ne faut pas y compter. Il est fort comme un roc. À moins d'un accident. Ne parlons plus de ça. Allez, passons une soirée agréable maintenant. En rentrant chez lui, Jean-Marie réfléchit. Si le mari de Maria Donia, Don Francesco Hernandez, avait un accident, cela arrangerait bien les choses pour eux deux. Le lendemain soir, il la revoit. Ils ont couché ensemble. Le lendemain matin, il a été réveillé par le bruit de la porte de la chambre qui s'entrebâillait. Il n'a pas pu voir qui avait entrebâillé la porte. Le sursaut qu'il a fait en se réveillant a réveillé Maria Donia. Il y a quelqu'un qui a entrebâillé la porte. Mais non, ce doit être le vent. Elle regarde l'heure. Il est temps que tu partes. Le temps passe ainsi. Il va la voir tous les soirs et font l'amour ensemble. Mon mari revient demain matin. Jean-Marie ne pensait déjà plus au mari. Il s'était habitué à la voir tous les soirs. Mais que veux-tu ? Je suis sa femme ? Une semaine après, elle lui téléphone. Allô, c'est toi. Je n'en peux plus. Si tu savais, il boit de plus en plus. Je suis pleine de bleu. Je peux venir cet après-midi chez toi? Oui, bien sûr, viens. Elle lui montre les bleus qu'elle a sur le corps. Oh ma pauvre chérie, ça ne peut plus continuer comme ça. Cet homme est une bête, il mérite la mort. Elle le regarde. Oui, tu as raison, il mérite la mort, mais comment faire ? Il est surpris. Il avait dit cette phrase comme ça, sans penser que ça devait être fait. Écoute, je crois que j'ai une idée. Demain, il prend un camion pour aller 500 km d'ici. Je vais lui demander d'aller avec lui. Elle lui dirait que je connais une personne qui aimerait faire ce voyage et qui paierait sa place. Une fois nous deux dans le camion, nous l'assassinerons et ferons renverser le camion dans un ravin. Jean-Marie ne répond rien. Il pense qu'elle va sûrement se calmer. Le lendemain matin, elle lui téléphone. Le pour lui dire que tout est en place, que le camion va partir dans 24 heures. Jean-Marie prépare sa valise. Prévenu le gérant de l'hôtel qui s'en allait. Il est inquiet et se demande s'il ne fait pas une bêtise. Tant pis, de toute façon il faut tenter le tout pour le tout. Au point où j'en suis, Antonio rentre. Il voit les valises. Tu t'en vas, dit. Oui, je pars. Je veux aller avec toi. Non, c'est impossible. Je veux partir avec toi. Ne me laisse pas seul, je t'en prie. Il est agrippé à Jean-Marie. Antonio, je ne peux pas. Allez, laisse-moi finir mes bagages. L'enfant Boudor s'assoit sur une chaise. Allez, Antonio, disons-nous au revoir. L'enfant lui tend la main. Jean-Marie l'embrasse sur les joues et il sort. Il arrive chez Maria Donia. Elle le présente à son mari. C'est un homme de la même taille et qui ressemble à lui. Il semble aussi avoir le même âge que Jean-Marie. « C'est vous qui désirez aller à Berto Horizonte ?»« Oui, monsieur. Bon, c'est bien. Je vous prends puisque vous êtes une vieille connaissance de ma femme. Vous êtes connu à Paris, paraît-il. »« Oui, monsieur. Bon, nous partons dans une heure. » Ma femme nous accompagne. Pendant que je vérifie les derniers préparatifs, vous tiendrez compagnie à ma femme pour le thé. Le mari sort. Elle lui demande. Alors, tout est prêt? Vous ne laissez rien derrière vous? Vous avez bien dit que vous rentriez en France? Oui. Le temps que je reçoive l'argent de l'assurance, vous vous cacherez ici. Une heure après, le mari est venu les chercher et ils sont partis. Ils sont tous les trois sur la banquette avant. La route est dangereuse. Après avoir roulé 5 heures, la nuit est là. C'est la pleine campagne. Nous allons nous dégourdir les jambes. Ils arrêtent le camion. Sorte. Don Francesco fait le tour du camion. Oh merde! Un pneu qui n'est pas assez gonflé. Venez voir. Jean-Marie s'avance et se penche. Don Francesco lui donne un coup de marteau sur la tête. Jean-Marie tombe. Il lui donne un autre coup. Allez, il a eu son compte. Viens m'aider à mettre le corps dans le camion.
Soulève-le un peu. Ouvre la porte.
La femme l'aide, il hisse le corps dans la cabine. à l'endroit du chauffeur. Le mari, sans rentrer dans le camion, en restant sur le marche-pied de devant, prend le volant et met en marche le camion. Il va jusqu'à un tournant de la route qui mène jusqu'à un précipice. Juste avant le tournant, il saute. Le camion dégringole et prend feu. Maria Donia court vers son mari. Il la prend dans ses bras. « Me voici mort, chérie. Nous sommes riches. Avec l'argent de l'assurance, nous pourrons rentrer en France. » Derrière un buisson, Antonio les entend. Il tremble de peur. Sa jambe droite est brisée. C'est en sautant de l'arrière du camion avant qu'il ne saute dans le précipice. Sa série L'écran radiophonique, Radio Canu vous a présenté un scénario original de Julien Jean-Pierre, Passeport pour la France. Mise en scène, production, Julien Jean-Pierre.